Ben moi, je suis Axelphone. En fait, j'habite aux États-Unis maintenant, mais j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à DEA en France en mathématiques. Et j'étais à l'université de Lorraine. Donc maintenant, je suis à Western Carolina University. J'ai obtenu un doctorat en co-tutelle, en fait, de Rennes et de la Caroline du Nord, en mathématiques, en calcul formel. Donc après, moi, mon parcours vers la didactique des mathématiques, ça s'est fait après le doctorat. Donc au cours d'un post-doc et ensuite au cours de mes années de professeur. Donc là, je suis en Caroline du Nord maintenant, à Western Carolina University. Et on a un groupe de 3 chercheurs en fait, à l'université. C'est une petite université régionale en fait, qui sert vraiment la région et qui cherche vraiment à soutenir l'enseignant dans son travail. On est très isolés en fait, dans la région. Donc, Birgit faisait mention de Jerry Comfrey, qui est également en Caroline du Nord, mais n'est pas dans notre région. Et donc, c'est vraiment un univers complètement différent, l'univers de Jerry Comfrey, l'univers dans lequel on travaille, nous, en Caroline, en Western North Carolina. Donc il y a North Carolina, après il y a Western North Carolina, qui est dans le même état, mais c'est vraiment la région des Appalaches, dans les montagnes, isolées, qui ne bénéficient pas forcément du travail qu'ils font dans la capitale, en fait.
Oui, je l'ai dit.
Et donc, ce que je propose de détailler aujourd'hui, c'est un modèle de collectif et de soutien à l'enseignement en fait, hein, qu'on utilise là-bas, qui s'appelle Mathematics Teacher Circles. Donc c'est des cercles d'enseignants des mathématiques en fait. Et c'est, pour nous, c'est une intervention qui aide vraiment à faciliter la collaboration entre notre petite université et les collègues dans les écoles. Et quand je parle des collègues dans les écoles, on a des enseignants du primaire, du secondaire, collège, des universitaires qui sont dans ce Mathematics Teacher Circle. En fait. Donc c'est tout le monde un peu ensemble qui fait partie de ce collectif. D'abord, le toutou de lingo que les Français utilisent en didactique, moi je ne le connais pas bien. Donc si je dis des choses qui sont un peu approximatives, et qui ont besoin de clarifier. Il faut me le dire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, j'essaierai de clarifier si possible. Donc effectivement, je vais parler d'un modèle de soutien, donc de professional development, de soutien professionnel. Donc c'est encore peut-être plus en amont de ce dont Birgit parlait, qui est vraiment le travail de l'enseignant pour la préparation et dans la classe en fait. Nous c'est plutôt qu'est-ce qu'on offre, hein, avant que l'enseignant fasse ce travail de préparation. Et ça, c'est pour l'instant. Après, le projet va évoluer, mais on est en première année, en fait, du projet. L'idée de la première année, ça a été vraiment de créer le groupe, qui se crée petit à petit, mais comme c'est un peu ouvert à tous, y a des fluctuations dans le groupe, dans le collectif. Mais on commence à voir un noyau assez dur de participants qui reviennent maintenant à chaque intervention. Donc, on commence à créer finalement ce groupe soudé. Je vais passer à le contexte politique en Caroline du Nord, c'est désastreux. Le parti qui est au pouvoir en ce moment n'a plus d'argent pour l'éducation ni pour la santé, de toute façon, donc c'est un peu la situation. On est passé 50e état au niveau des salaires pour les enseignants, donc ça fait quand même, on est dernier derrière tout le monde. Tous nos enseignants partent, en fait, c'est un exode assez terrifiant finalement. Et c'est pour ça qu'il y a justement cette nécessité de soutenir les enseignants qui restent et de les rendre heureux un peu, de les rendre à l'aise dans leur travail pour qu'ils soient encouragés finalement à rester. Parce que là, c'est vraiment très compliqué la situation économique et politique pour eux. Donc au niveau éducatif, effectivement, pas vraiment de ressources. Hein. On a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas de manuel finalement, qui ont... Surtout depuis qu'on a adopté le Common Core, donc il y a eu un changement au niveau du curriculum et les ressources n'ont pas suivi. Il y a pas mal d'écoles qui n'ont pas choisi leur manuel parce qu'on leur a dit qu'il n'y avait pas de sous. Donc ils essayent tant bien que mal d'utiliser les ressources digitales, mais bon, il faut être formé pour ça. Il n'y a pas vraiment de formation non plus, surtout à distance comme ça, dans une partie isolée de la Caroline du Nord. Donc au niveau du curriculum, c'est un peu le bazar, il change tous les ans en ce moment, parce que le Common Core donne des idées de ce qui doit être couvert, ensuite chaque État décide, de faire son propre curriculum et sa propre évolution, en fait, des thèmes. Et donc, ça fait 2 ans qu'ils ont démarré avec un curriculum. Et là, cette année, tous les enseignants ont entendu « Ah ben non, on va changer de nouveau parce que ça ne marche pas. » Forcément, les tests montrent que ça ne marche pas, donc on va changer. Donc à la fin de l'année, là, les enseignants des mathématiques ne savaient pas ce qu'ils allaient enseigner au mois de septembre, à la rentrée. Donc c'est vrai que c'est difficile pour eux de se fixer dans un contenu mathématique. Et du coup, pour nous, ce qu'on essaye de faire avec notre collectif, c'est plutôt une aide à la pédagogie et à l'adaptation, en fait, selon ce qu'ils devront enseigner, qu'ils soient prêts à utiliser la pédagogie appropriée pour ça, en fait. Recrutement, rétention d'enseignants, comme on en a parlé tout à l'heure, tout le monde s'en va. Il y a même des recruteurs de Texas qui sont venus l'année dernière et qui sont venus en bus, en fait, et qui sont venus recruter des enseignants et sont partis avec. C'est un peu caricaturé, mais bon, c'est malheureusement un peu le climat en ce moment. Donc, le Smoky Mountain Mathematics Teacher Circle, c'est notre cercle des enseignants des mathématiques. Notre vision, en fait, c'est vraiment d'établir cette communauté d'enseignants des mathématiques, de la primaire jusqu'au supérieur, enseignement supérieur, qui va encourager des collaborations, mais dans un cadre absolument pas compétitif. Ça, c'est très important, parce qu'il y a tellement de niveaux différents dans notre collectif que si ça devenait un peu compétitif au niveau de la connaissance mathématique, ça ne marcherait pas du tout, en fait. Il ne faut pas que les enseignants du primaire, par exemple, se sentent moindres. Donc le non-compétitif est très important. Et l'idée, c'est vraiment d'explorer des problèmes mathématiques riches, complexes, qui n'ont pas forcément vu auparavant. Je vais en montrer un tout à l'heure. Peut-être que dans l'audience ici, il y en aura qui l'auront déjà vu, ce problème-là. Mais en général, les enseignants, nous, n'ont pas vu ces problèmes complexes. Ça peut être des questions qui sont encore ouvertes, quelquefois. Donc on s'engage dans ces questions-là, ensemble, en groupe, et on développe un peu la relation mathématique de chaque partenaire, enfin de chaque participant, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, en fait. Et surtout, ce qui est très important, c'est la joie et la bonne humeur. Ça, c'est une ressource culturelle, en fait, qu'il ne faut pas oublier dans le sud des États-Unis. Il faut que ce soit très convivial, sinon les gens ne s'amusent pas, les gens n'apprécient pas leur formation, en fait. Donc il faut être sensible à ça. Donc on se retrouve chaque année, chaque mois, en fait, dans un café, par exemple, où on est allé jouer au bowling il y a quelques temps, et on fait des mathématiques, mais on s'amuse en même temps. Donc ça, c'est, voilà. Et j'ai marqué en note, ça aussi, c'est une ressource. Ça fait partie de la dimension culturelle, en fait. Donc le projet a été piloté un petit peu en 2014-2015. Il a vraiment pris pied 2015. Donc ça fait un an, en fait, que ça a démarré au niveau des réunions mensuelles. Et donc à l'été 2015, on a eu un institut intensif, en fait, de 3-4 jours. C'était 3 jours et demi, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des sessions soit de quelques heures, quand c'est les sessions mensuelles, en général 2h30 de réunion, ou plusieurs jours, donc 3-4 jours pour l'été. Cet été, là, au mois de juin, on va en avoir un autre, en fin juin, 3 jours et demi également. Notre institut. L'idée, c'est vraiment de construire une identité partagée, donc qui va évoluer forcément au sein du groupe, hein, mais c'est l'intérêt commun, c'est d'évoluer au niveau de nos capacités pédagogiques, de décision pour ce qu'on utilise dans l'enseignement des mathématiques. Et c'est quand même guidé, je vais montrer tout à l'heure, c'est quand même guidé par l'idée du Common Core, parce que c'est ça qui est en place en ce moment. Et aussi, l'identité partagée est aussi guidée par un désir d'avancement dans la connaissance des mathématiques. Tous nos enseignants ne sont pas très proficient en mathématiques. Donc il y a ce besoin de partager les connaissances et aussi la relation professionnelle au sujet, donc comme j'ai mentionné auparavant. Les expériences et collectifs sont importantes parce qu'on veut capitaliser vraiment sur tous les acquis des partenaires ou des participants, donc les acquis professionnels, personnels, les acquis sociaux. Il y en a qui ne viennent pas d'une formation d'enseignement des mathématiques. Il y a des gens qui sont rentrés par la porte d'à côté, des ingénieurs, des gens qui sont rentrés par dans l'enseignement de manière parallèle un petit peu. Donc il y a cette situation-là où eux aussi ont des acquis, mais qui qui partage, mais c'est différent de quelqu'un qui serait passé par un cursus traditionnel. Donc, ce qu'on voit, c'est que le développement d'une identité de mathématicien, la plupart de nos participants parlent de ça au bout de quelques séances, où ils se retrouvent plus comme des mathématiciens parce qu'ils ont réussi à discuter de ces idées mathématiques avec d'autres acteurs de la profession. Aussi, un développement d'une curiosité mathématique qui n'est pas forcément là, surtout dans les enseignants du primaire, qui enseignent tous les sujets forcément, donc les mathématiques, c'est pas forcément leur point fort. Et aussi plus de créativité en fait dans leur approche au bout d'un moment, après avoir participé aux réunions. Donc l'immersion d'été intensif, j'en ai déjà parlé, les sessions mensuelles, j'en ai déjà parlé. Quelque chose d'autre qu'on offre, c'est des opportunités de devenir un leader, en fait, qui ne sont pas forcément là non plus pour les enseignants aux États-Unis. Apparemment, ici, moi, je voyais la doctorante hier qui a fait tout un cursus étant enseignante, ensuite devant un enseignant-chercheur, ensuite elle a vraiment progressé dans sa profession. Et aux États-Unis, il n'y a pas ces étapes-là qui sont pas forcément disponible finalement. Et pourtant, on dit bien que les études sur la rétention d'enseignants montrent que s'il n'y a pas ces opportunités d'avancement, les enseignants s'en vont au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas possibilité d'évoluer finalement dans la profession. Donc, c'est quelques opportunités qu'on offre, c'est de présenter à des conférences, de démarrer d'autres cercles mathématiques dans d'autres régions, de servir de consultant en fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est juste des photos juste de l'été de l'Institut d'été de l'année dernière. Donc on voit il y a deux enseignants mathématiques du supérieur avec le collègue, la dame. Elle est en stagiaire, elle était stagiaire cette année, donc on a aussi nos stagiaires qui participent également et qui ont donc accès au monde plus professionnel à travers ces réunions. Encore un universitaire avec une collègue du collège, plusieurs stagiaires de nouveau. Et donc on les voit vraiment en activité mathématique avec beaucoup de on dit ressources tangibles, c'est ça les manipulatifs. Donc c'est vraiment basé sur la manipulation, le côté hands-on. Et la slide suivante, c'est justement les élèves de nos enseignants qui participent, qui sont également en train d'utiliser les mêmes manipulatives dans leur classe, finalement. Donc montrant un transfert à la classe, ce qui est assez positif, parce qu'au début, nous, c'était plutôt retrouver la confiance en soi de l'enseignant. C'était un peu l'idée. Après, bon, comment ça se passe dans la classe, c'est pour l'année prochaine. Quel est le transfert qui va s'opérer? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant pour moi d'être ici, parce que je vais pouvoir apprendre des choses. au niveau du suivi de l'enseignant et de la documentation, une fois qu'ils sont prêts à designer dans leur classe. Des cercles mathématiques, en fait, ça a commencé il y a 10 ans au sein des États-Unis. Donc il y en a pas mal au sein des États-Unis, il y a pas mal d'États qui participent. C'est l'Institut américain des mathématiques qui a démarré ça et qui s'est mis à former plusieurs groupes. Et donc, la chose au niveau de professional development aux États-Unis, c'est que c'est pas forcément très bien financé. Tu m'entends plus?
On a un problème de son, c'est tout brouillé.
Ah, bon, que faire?
Tu passes pas?
Ghislaine, tu coupes le Skype et tu le relances?
Ah, c'est un problème de connexion.
Ah non, on est bien connecté.
C'est peut-être le micro. Le micro est là-bas.
Non? Non, la série.
Non, c'est un micro différent, c'est pour la vidéo.
Ouais. Écoute, je pense que le plus simple, c'est de couper et de relancer.
D'accord. Alors,
ouais, on coupe. Quelque chose, non.
Bon, c'est à Dieu. Voilà. Voilà, est-ce que ça va mieux?
C'est encore pas terrible pour le moment, non. C'est marqué problème de connexion internet. Alors attends, est-ce que j'ai un ordi fixe donc...
Que c'est étonnant que l'image passe et que le son ne passe pas. En principe, l'image passe bien.
Alors, j'essaye de couper l'image pour voir si on gagne un niveau de le son, d'accord?
Ok, je coupe l'image aussi.
Voilà. Alors,
ça marche?
Est-ce que ça marche mieux?
Est-ce que ça marche mieux?
Oui, au niveau du son, ça passe mieux.
Ok.
Donc, pas vite, le diaporama simplement. Hein.
D'accord. Là, je suis sur la carte des États-Unis.
On a fait l'hypothèse que les universitaires avaient des t-shirts verts. Est-ce qu'on a bon?
Oui, c'est celui du Mathematics Teacher Circle. Il faut aussi, ça c'est aussi au niveau sensibilité culturelle, il faut quelque chose, un logo, quoi, quelque chose qui nous représente. Donc, mascotte, quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est la carte des États-Unis, la Caroline du Nord des comptes, et donc à l'est là, sur la côte, hein, juste au-dessus de la Caroline du Sud, qu'on voit mieux. Elle est un peu cachée là, par les étiquettes, et en fait ce qu'il y a c'est qu'au niveau de la formation professionnelle, hein, c'est pas très bien rémunéré, enfin c'est pas très bien financé non plus aux États-Unis, bah, enfin, c'est pas partout financé, et donc il y a beaucoup de recherches de financement privé, en fait. C'est un peu comme ça qu'on opère. Moi, les deux projets jusqu'à présent dans ma carrière où j'ai été chercheuse, en fait, ça a été comme ça. Ça a été un financement privé de 5 ans. Et donc, pour notre Mathematics Teacher Circle, on a trouvé un financement de GlaxoSmithKline, qui était une compagnie pharmaceutique, finalement, mais qui a très, très bien financé pendant 5 ans. Donc là, on a 5 ans pour faire quelque chose avec nos enseignants, et après, bah, faudra voir comment ça va être renouvelé, si on peut renouveler. Oui, Bill Gates a aussi pas mal de possibilités à ce niveau-là. Et donc, ce que GlaxoSmithKline voulait, c'est qu'on suive le modèle du Nebraska, qui a très bien fonctionné jusqu'à présent. Donc, c'est un peu... Une fois qu'on a reçu un financement d'une compagnie, et après, il faut un peu suivre leur directive également. Donc, c'est pas complètement libre. Mais bon, ça nous allait aussi de suivre ce modèle-là, puisqu'il est successful. Il a du succès. Ce qu'on fait... Récemment, les enseignants ont participé à une conférence d'histoire des mathématiques. On parle de bowling, comme j'ai dit, on fait des pancakes. Donc voilà, c'est un peu éclectique les activités qu'on propose. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme j'ai dit, on résout des problèmes mathématiques complexes et on a des discussions pas forcément formelles, hein, sur le contenu de la didactique associée. Donc, c'est plutôt des discussions de comme on est dans un café, des discussions de café. Ou des discussions entre les portes, comme on dit, dans les couloirs que les enseignants peuvent avoir parfois. Le réseau que l'on crée est important pour nos enseignants, parce que maintenant, ils ont quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser, soit à parmi leurs collègues. Disons que c'est une région tellement vaste que chaque enseignant est un peu isolé dans son établissement, en fait. Hein. Et donc, ils arrivent maintenant à trouver ce réseau avec d'autres collègues, d'autres établissements. Et il y a aussi l'accès à des ressources qui vont encourager l'utilisation des démarches d'investigation. Donc forcément, la résolution de problèmes mathématiques complexes amène à une démarche d'investigation assez naturelle, finalement. Au début, dans le cercle, et ensuite dans les classes, on espère voir un transfert, et on espère pouvoir le mesurer au bout d'un moment. Donc en général, on a à peu près 20 participants par réunion. Comme je dis, c'est pas toujours les mêmes. Il y a un petit groupe que maintenant j'arrive à suivre et avec qui j'ai fait des interviews. On filme. Après j'ai parlé avec Gisèle, on a filmé toutes les interventions. Au début, on le faisait pas forcément, mais là maintenant, on les filme pour voir l'évolution du matériel qu'on utilise au sein de l'intervention pendant les réunions. Et donc, au niveau de la définition des ressources que je vais utiliser, c'est de nouveau tout ce qui est mis à disposition de l'enseignant à travers du collectif. Donc, qu'est-ce que l'enseignant reçoit dans le collectif? Ça peut être humain et ça peut être matériel. Donc, voici par exemple un problème qu'on a utilisé, c'était au mois de mars, là. Donc, je n'ai pas encore vu un transfert de celui-ci dans les classes, mais on a utilisé ce problème-là avec notre collectif, et je vais vous faire travailler un petit peu. Donc Ghislaine, si tu as les pancakes, tu les distribues. Il en faut 3 par groupe, donc si tu fais 2 groupes de 3, je crois que ça va marcher pour vous.
Je distribue n'importe quelle taille.
Non, tu les mets 3. Tu mets 3 pancakes, donc il y a un grand, un moyen, un petit.
Les 3 tailles, hein.
Oui, et donc tu fais 2 groupes de 3 dans ton...
On fait 2 groupes avec des mathématiciens.
Voilà.
Mathématiciens par groupe, donc la Véronica, la façon
certains groupes.
Voilà.
C'est bon, c'est mis par 3, on ne savait pas, bah, mais...
Oui, mais ça peut être 3 ou 2 ou 4. Hein, mais, Et si vous voulez, moi j'en ai assez, je ne savais pas combien de personnes allaient être ici. Donc j'en ai suffisamment finalement pour que chaque personne ait sa petite pile de pancakes.
Tu ne passes pas au travail collaboratif et à son intérêt?
Donc, oui, mais justement, vous allez pouvoir discuter et manipuler chacun. Donc, donc, on avait des vrais pancakes.
Oui, c'était cool.
En fait, j'aurais pu, dans la chambre d'hôtel, j'avais une petite cuisine. Donc, j'aurais pu passer ma soirée à faire des pancakes.
Oui.
Mais j'ai pas fait.
Ghislaine, tu avais une remarque sur les pancakes?
Oui, ça parce que Lucette fait une intervention jeudi prochain, donc là je pense que le vrai pancake est absolument indispensable.
Oui, mais je parle du bowling jeudi prochain. Et j'ai pas amené mes boules dans l'avion. Voilà, si. Ben, je vais juste mettre un check. Voilà, ce sera plus facile pour moi. Et donc le problème est au tableau là? Ah. Il est en anglais, mais j'ai la traduction approximative française sur la prochaine diapo. Donc, je voulais le mettre en anglais parce que c'est un problème classique qui date de 1975 et qui a été posé par un mathématicien qui s'appelait en fait Jacob Goodman, mais il a utilisé un pseudonyme en fait pour ce problème-là quand il l'a publié. Ce qui est apparemment assez fréquent chez les mathématiciens d'une certaine époque. Pendant 200 ans, ils avaient tous des pseudonymes. Apparemment, l'historienne qui est avec nous dans ce projet dit que c'est parce qu'il y avait beaucoup de femmes, en fait, mathématiciennes, qui ne publiaient pas sous leur nom. Parce que ce n'était pas forcément bien reconnu d'être mathématicienne quand on était femme. Et donc, il y a eu beaucoup de pseudonymes utilisés. En particulier, celui-là, c'est un jeu de mots, en fait, The Waiter. The Waiter, parce qu'on parle d'un waiter, en fait, qui sert des pancakes. Donc, je vais passer à la traduction suivante. Donc, voilà, aujourd'hui, le cuisinier n'est pas très en forme dans les cuisines. Quand il fait des crêpes pour les clients, elles ne sont jamais de la même taille. Et du coup, on va faire des tas de crêpes. Et c'est comme ça qu'on les sert, donc, par trois, puisque vous avez trois paniers pour l'instant. Mais pour ne pas froisser les clients, moi je suis la serveuse, je dois les arranger avant de les servir. Et comme j'aime bien les arranger pour que la plus grande crêpe soit en dessous et la plus petite soit au-dessus, en fait, et qu'il y ait une progression naturelle. Seulement, le problème, je ne sais pas si vous allez comprendre, Arène, puisque vous ne pouvez pas voir, le problème c'est quand je réarrange, tout ce que je peux faire c'est que j'ai une spatule, et donc je peux passer la spatule entre deux et tout retomber. D'accord. Bon, là, forcément, ça n'a pas servi ce que j'ai fait. Et alors, ce que je me demande, c'est quel est le maximum de transformation qui m'assure que la pile sera dans le bon ordre. Donc, dans le pire des cas, quel est.
En fait. Tu peux mettre la caméra juste dedans pour regarder le retournement. Ouais, d'accord, je vais essayer. Je vais essayer. Ah, bien. C'est bon.
Alors, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je prends la spatule, tu vois, et je la passe sous. Entre deux pancakes et puis je retourne la pile du haut.
Donc, je suis un peu étonné que les Bretons ne sachent pas ce que c'est retourner une crêpe, mais bon.
Non, parce qu'on les fait sauter en Bretagne.
Axel. Okay.
Donc est-ce qu'il y a des questions sur les énoncés déjà?
Tu dis plusieurs crêpes, donc ça nous est un peu
difficile.
C'est un peu
dur comme
ça. Pardon, Ghislaine?
Non.
Le bleu de la crêpe, on ne le voit pas, mais en fait, on suppose que les crêpes, elles sont
symétriques.
Oui, pour l'instant, elles sont symétriques.
Ah, bon, je
ne vous demandais
pas.
Si, c'est important, mathématiquement.
Oui, oui.
Ah, bah oui.
Pour l'instant, il y a un autre problème où elles ne sont pas symétriques. Celles-ci vont être symétriques pour cette situation. D'accord. Donc, effectivement, là, on ne voit pas bien, mais bon, elles sont. Disons, considérer les carrés sur les crêpes. Voilà. Et comme je disais, on avait des vrais pancakes quand on l'a fait chez nous, donc c'était quand même plus clair. Donc voilà, l'idée, c'est de donner pour n crêpes, quel serait le pire des cas pour le nombre de retournements dont j'ai besoin pour m'assurer que la pile soit en bonne ordre.
C'est clair.
Donc,
tu peux fermer la vidéo, sinon on entend mal. Maintenant, on a vu.
Ouais, d'accord.
Merci.
Et ne communiquez pas vos solutions, s'il vous plaît. Arène.
Donc,
moi j'en ai trois, donc plusieurs, ça peut être.
Donc, il y a différentes manières de les configurer au début. Le waiter, par exemple, il a la petite en dessous, la grande au-dessus et celle du milieu, par exemple. Ça, c'est une possible, une configuration possible. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres configurations possibles avec trois crêpes. Avec une crêpe, c'est facile. Avec deux, c'est relativement facile aussi. Maintenant, à partir de trois, il y a plus de
possibilités. Il faut les mettre à côté, c'est-à-dire.
Non, il faut les retourner sur la pile. Bon, après, quand on passe à quatre, on
D'abord, je fais ça.
Tu la places entre deux
ici. Et tu le bas et je ramène la
petite.
La plus grande est
dessus.
C'est pas
nécessaire que
tu prends
ça.
Oui, si j'en rajoute une, je rajoute celle-là. Je peux la mettre où je veux, par exemple, ça met là. Je fais un retournement. Deux retournements. Là. Et ça y est, c'est dessous. Et donc, je suis ramené à un problème de 3.
Oui. Alors,
M1, c'est
le
nombre de
pancakes.
Non, parce que je vais faire 2.
Donc, ce serait maintenant un
pancake. Il fait 2
Z moins
1. Le nom maximal. Est-ce que madame, est-ce que c'est ça?
Bon,
Je vais te problème. Donc, imaginons que j'ai résolu le problème qu'on a dit. Maintenant, voilà, je sais faire pour ça. Je prends une feuille, une crêpe pour la main. La maison de
l'eau,
par exemple, je fais une crêpe. Où qu'elle soit, je fais un coup. Une deuxième. Et maintenant, ça, c'est tout pour moi. Donc, il suffit de faire ça avec une
feuille.
C'est pas forcément.
Il y a 24 possibilités. Donc, si on fixe 4,
Et le petit vase, c'est la feuille ouverte.
Donc, on fixe en 4.
Alors, il y a 2 possibilités.
C'est ça l'idée du retournement. Vous allez tourner un paquet qui veut retourner la pupille dessus. Il faut retourner la pupille ici. Complètement. La moyenne change. Oui, complètement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va retourner ça. On va mettre les trois dessus. Voilà.
Mais tu n'as pas le choix de
oui, on n'a pas le choix
Donc pour débriefer un petit peu, déjà, bon, forcément, le type de stratégie qu'on utilise, c'est les cas moindres. Donc n égale 1, n égale 2 sont faciles. Ensuite, à 3, on arrive à 3 retournements. Ensuite, on a envie de faire une conjecture, forcément. Beaucoup de nos participants ont voulu dire si c'est comme ça, ça va faire 0, 3, 5, 7, 9. Et en particulier, dans la réunion qu'on a eue, il y a un nouvel arrivant au Math Teacher Circle qui tout de suite a sauté sur la conjecture. Et une ancienne a dit non, ça va pas être comme ça. Parce qu'elle savait très bien que souvent les questions mathématiques complexes n'ont pas une réponse si casquine que ça finalement. Et donc il faut aller chercher un peu plus loin, il faut aller un peu plus loin que 3 cas finalement pour trouver une sorte de récursion, pour trouver une forme. Donc à partir de ce moment-là, on commence à passer à la notion de borne, de limite en fait. Parce qu'il est possible dans ce problème de démontrer qu'il y a une limite, mais cette limite-là n'est pas forcément optimale en fait, dans tous les cas qui ont été trouvés jusqu'à présent. Donc l'utilisation des outils mis à la disposition, dans notre cas, c'est la manipulation d'objets. Dans nos interventions, en général, on n'utilise pas de technologie. Il y a un applet en fait qui fait le modèle des pancakes, hein, mais il n'est pas très bien fait. Donc finalement c'est plus facile, et surtout pour beaucoup d'enseignants, ils aiment bien avoir des choses en main, hein, pour pouvoir tester leurs hypothèses. En fait. Et la technologie ne nous paraît pas un bon outil pour nous. Moi je dis pas que c'est pas un bon outil en général, quoi. Mais pour nous, dans nos réunions, c'est important d'avoir cette dimension du toucher. Et qui engage la discussion. Vous étiez tous en train de discuter, là, quand vous allez voir le problème. Et ça permet de démontrer tout de suite, ah, tiens, c'est comme ça, tiens, donne-moi ta pile. Ensuite, l'utilisation de la dynamique du groupe, il y a eu des questions. Ça, c'est des questions sur ce que le problème signifiait vraiment. Et il y a eu énormément de questions dans notre session par rapport à qu'est-ce que ça veut dire le pire des cas. Parce qu'on recherche le pire des cas, mais on recherche à le minimiser, en fait. Et donc, l'énoncé du problème est un peu problématique à ce niveau-là, parce que la question, c'est si j'ai N crêpes dans ma pile, quel est le nombre maximum de transformations qui m'assure que la pile sera dans le bon ordre. Donc, maximum, parce qu'on est dans le pire des cas, mais en fait, c'est quand même un minimum dans ce pire des cas-là. Et donc, les conversations par rapport à l'énoncé mathématique, hein, et la question que l'on pose... ont été très riches à ce niveau-là parmi nos enseignants, pour cette partie, cela en particulier. Ensuite, il y a forcément l'utilisation d'acquis mathématiques antérieurs, les tours d'Hanoï, que la plupart connaissent. Tout de suite, ils ont pensé à ça, d'où l'idée d'utiliser le cas précédent. Et pour ceux qui ont eu le temps d'utiliser 4 pancakes, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait moyen de se retourner au cas précédent avec 2 mouvements de plus, en fait. Donc ça donne une borne sur le nombre de possibilités pour le cas suivant. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que des enseignants développent des habitudes mathématiques, donc les stratégies de résolution de problèmes sont certainement des habitudes mathématiques qu'ils doivent développer. Comprendre quels acquis mathématiques antérieurs interviennent dans un problème. Comprendre que les discussions entre élèves sont importantes pour découvrir des misconceptions et aussi pour les encourager à utiliser le vocabulaire. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on voit dans toutes les classes jusqu'à présent dans notre région. Donc, engager les enseignants dans cette dynamique leur permet de voir ce qu'ils voudraient créer dans leur classe, en fait. Et ce qui est poussé par le Common Core, finalement. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cette slide? Donc, encore un peu plus de debriefing. Certaines choses sur lesquelles on peut connecter ce problème au niveau du curriculum, c'est certainement les permutations, en fait, le nombre de configurations possibles au début. Ensuite, la récursion, forcément, les suites. Au niveau de la pédagogie, l'adoption des rôles naturels au sein du groupe. Hein, donc, il y a forcément quelqu'un qui va prendre son papier et son crayon, créer des notations qui sont très importantes en mathématiques, mais c'est souvent l'enseignant donne les notations à l'élève, alors que là, les participants créent leurs propres notations. Ce qui est devenu très intéressant au moment où on a regroupé le groupe, en fait, parce que personne n'avait les mêmes notations. Chaque table avait des notations différentes, et ils ont commencé à discuter de leurs solutions, et ils se sont rendus compte qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Donc forcément, créer des conversations en mathématiques, très important de nouveau. Comment faciliter la discussion? Ensuite, c'est vrai que nous, ça, c'est l'intérêt du facilitateur qui a quand même fait une recherche sur le problème après, qui permet d'ouvrir des perspectives sur l'histoire du problème, donc comme l'origine. Le travail actuel sur le problème, c'est un des problèmes qui fait partie de la liste de problèmes ouverts encore, donc qui n'a pas été résolu complètement. Pour N, pour le cas N. En fait, il a été résolu jusqu'à 13, d'après ce que j'ai vu. Et bon, le nombre de configurations augmente très rapidement. Après, c'est une question de programmation, approche programmative du problème. Utiliser des ordinateurs pour calculer les possibilités.
Finalement. C'est linéaire, c'est pas très rapide.
Hein?
2N-1, c'est pas très rapide.
Non, mais ça, c'est un max, enfin, c'est maximum, mais c'est, ouais. C'est assez large, en fait, comme ça. C'est une bande qui n'approche pas. Et le côté, il y a aussi un côté caractère disciplinaire de cette activité-là, puisqu'il y a des applications à réarrangement d'ADN, en fait. Donc, ouvrir l'enseignant aussi à ces rattachements est important au niveau de la ressource qu'on utilise. Donc, en particulier, ce qu'on note dans les rôles que les enseignants ou les participants ont occupés lors de cette activité-là, c'est que forcément les universitaires ont tout de suite le papier et le crayon dans la main à créer des récursions. Ça, c'est... maintenant, les autres enseignants, beaucoup moins, ils ont besoin de tester, ils ont besoin de manipuler. Donc, il n'y a pas forcément ce côté papier-crayon, j'ai plus besoin de... Même de données manipulatives, en fait. Les interactions, une fois que l'universitaire propose une solution, souvent on voit les autres membres de la table, du mini-groupe, en fait, tester. Et en fait, montrer que non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce pouvoir de dire, bah non, finalement, cette solution-là ne marche pas, il faut trouver autre chose, finalement. L'intérêt de ce problème aussi au niveau de l'histoire, c'est que Bill Gates a trouvé une solution d'une upper-band au problème quand il était étudiant. Son professeur a donné ce problème-là au début de son semestre et a proposé de le résoudre dans le semestre. Et Bill Gates a apparemment trouvé une meilleure solution que ce qui avait été proposé jusqu'à présent. Donc les résultats qui sont disponibles, vous avez déjà trouvé... Ensuite, ça passe 4, 5, 7, 8, 9, 10, après ça monte, hein. ça change, 13, 14, 15. Et donc on a envie de dire, bon, ben, ça va aller 16, 17, mais on ne sait pas en fait, on ne sait pas le prouver jusqu'à présent. Et, ben, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a, donc la upper bound de Bill Gates, c'était que le nombre de pancakes, f of n, est moins que 5 tiers de n. Donc ça, c'est ce qui a été trouvé de plus minimal en fait, au niveau de plus optimal. Enfin, c'est pas exact, mais c'est optimal. La première upper bound qui a été trouvée, c'était 2N minus, moins 3. Et donc il y a moyen d'aller en ligne maintenant pour voir un peu la résolution de ce problème-là. Mais il y a toute une littérature en fait sur ce problème, si vous cherchez un peu sur Google.
Il s'appelle comment en fait?
Flipping Pancakes.
Ah, d'abord, c'est le vrai nom.
Oui. Oui, c'était des mathématiciens qui s'amusaient apparemment. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, nous, au sein du collectif? Forcément, on veut s'aligner avec la poussée des États-Unis vers l'utilisation des Common Core. NCTM, qui est le National Council of Teachers of Mathematics, a publié quelque chose qui s'appelle Principles to Action, qui donne en fait des rôles aux acteurs de l'éducation, finalement, des mathématiques. Et en particulier, il y a toute une liste de principes au niveau du développement professionnel, de ce qu'on devrait faire pour mettre à la disposition des enseignants. Donc, les aider à avoir des goals, des buts mathématiques. J'ai mis ça en anglais dans le texte parce que c'est en anglais dans le texte. Donc, je n'ai pas essayé de traduire les documents de la NCTM. Donc, avoir des buts mathématiques, en particulier, c'est vrai que là, nous, c'est plutôt sur l'investigation qu'on se concentre. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire une investigation mathématique, finalement? Les tâches qui promotent... J'ai peut-être pas besoin d'essayer de traduire sur le fly. Ok. Donc, promoting, reasoning, problem solving, ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on essaye aussi de faire de manière assez assidue dans nos réunions. Au début, j'avais donné un pré-questionnaire à mes participants, en fait, et je leur ai demandé quand est-ce que vous utilisez problem solving dans vos classes. C'était systématiquement application. Donc après qu'on ait recouvert le concept, on fait un problème d'application. Donc il n'y avait pas vraiment de recherche pré-concept, en fait. Et donc de plus en plus, ils commencent à se dire, tiens, mais finalement, j'ai le temps de faire ça. Souvent, c'est l'argument, c'est bon, on n'a pas le temps de faire ça. Il faut qu'on apprenne, il y a des choses à couvrir, quoi. Et finalement, après avoir passé du temps avec les concepts et de voir la richesse des discussions qu'ils ont entre collègues, ils se rendent compte que leurs étudiants peuvent bénéficier de ça également. Et donc, il y a un transfert au niveau de la pédagogie à ce niveau-là. Les mathematical representations, bon, bah, c'est vrai que là, on a une représentation très concrète, en fait. Hein. Après, on a d'autres activités où vous avez vu sur les photos, on utilise d'autres types de manipulatifs. Le mathematical discourse, de nouveau, une fois que l'enseignant a participé à ce genre de discussion, il est capable de gérer ce genre de discussion au niveau des élèves également. Donc on commence à voir ça aussi dans les classes. Le questionnement, c'est assez informel, mais de plus en plus, on voit des enseignants maintenant revenir à la session suivante et dire « Tiens, j'ai essayé ça avec mes élèves et c'est ça qui s'est passé, c'est des discussions qu'on a vues. » Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que je capture dans mes vidéos, après, dans le travail qu'on fait au niveau de la documentation, finalement. Et aussi, bon, par contre, le numéro 6, on fait moins ça, parce qu'on est beaucoup plus, on est beaucoup plus axé sur l'investigation ici. Donc les procédures, etc., c'est moins quelque chose sur lequel on s'attache. Mais en même temps, c'est un choix aussi, parce que les procédures, c'est quelque chose que les enseignants arrivent à bien faire en général. Ça, c'est le genre de choses qui passent assez facilement dans les classes. Supporting productive struggle in early mathematics. Donc, bien, de nouveau, cette activité-là, je pense, exemplifie pas mal ce que ça pouvait dire à ce niveau-là. Ça fait longtemps que je parle, hein, c'est trop long, quoi.
juste peut-être, les collègues de Bretagne s'en vont dans 5 minutes. Je leur demander s'ils ont une question à poser.
Okay.
Et puis après, tu poursuis.
Vous êtes toujours là ? À Rennes ? Non, ils sont partis.
Ça alors ?
Bah, j'ai pas les
mais non, on n'est pas partis, on est là, on avait coupé le micro pour ne pas vous déranger pendant qu'on réfléchissait.
Ah, d'accord, ils sont encore en train de faire, ils sont passés à 4 pancakes.
on est à 8 pancakes.
D'accord.
Gislaine, vous partez à midi et quart, est-ce que vous avez une question à poser avant de partir ou un commentaire ?
Non, elles ne sont pas de
Donc, ce que je voulais dire, en fait, avant que vous partiez, c'est que ce que je me propose, c'est d'utiliser, en fait, ce guide-là pour l'analyse de l'impact de nos interventions au niveau du professional development, puisque ce sont les guides qui nous sont donnés à nous. Ce sont ces catégories-là sur lesquelles
C'est 8 points sur les points qui viennent du Common Core.
Cela de NCTM en fait. Après que le Common Core ait été développé, NCTM a publié ce nouveau document pour les acteurs de l'enseignement.
Oui, bien sûr.
Par contre, ce qui vient du Common Core, c'est des Mathematical Practices. Ceux-là ont été publiés pour les enseignants dans la classe.
Oui.
Et ces Mathematical Practices sont liés aux Principles to Action. Et on voit bien qu'il y a certains liens. Par exemple, si on regarde Establishment, implementas that promote reasoning and problem solving, le numéro 2 ici, c'est clair que le numéro 1 dans les practices, on make sense of problems and persevere in solving them. C'est ce qu'on veut voir les élèves faire maintenant dans les classes, qui sera facilité par l'enseignant. Et bon, l'idée c'est que beaucoup de nos enseignants en fait ne sont pas passés par ce type de pédagogie quand ils étaient à l'école et donc ils ne savent pas le faire. Et donc, s'ils sont eux-mêmes engagés dans ces interventions avec nous, après, ils ont une meilleure idée de ce qu'ils peuvent faire en groupe d'étudiants, en créant des teams, en fait. Donc, maintenant, quels sont les outils de recherche que j'utilise ? Les entretiens individuels, j'ai fait avec justement le groupe d'habitués, maintenant, qui commence à revenir à chaque intervention. Des questionnaires à chaque intervention aussi, parce qu'en général, c'est juste une question.
Par exemple,
justement les practices là, une fois je leur ai donné ces practices et je leur ai dit quelles sont les practices que vous avez vues en application aujourd'hui avec l'activité. Donc est-ce qu'ils sont capables de reconnaître ? Ça a été une question une fois. Parce que nous aussi, quand on choisit l'activité, on essaie de voir quelles pratiques sont associées. Mais il est possible qu'il y ait une différence entre nous et ce que voit l'enseignant, finalement. Et donc, l'idée de cette question-là, c'était juste... une autre question que j'ai posée à la dernière réunion, c'est comment percevez-vous les rôles des différents acteurs dans votre mini-groupe ? Comment pouvez-vous décrire ces rôles-là ? Parce que moi, c'est vrai que j'observe, je vois les rôles. Eux, de nouveau, ils ne vont pas forcément les percevoir de la même manière. Donc après, analyser ces choses-là peut être très intéressant. Donc voilà, il y a aussi des questionnaires. Après l'été, on a un questionnaire qui est plus long, en fait, forcément. Une des questions que j'ai, c'est quel a été un moment de « aha moment », comme on appelle, qui vous a vraiment permis de faire une réalisation assez stratégique, finalement, pour votre enseignement. Les vidéos, donc toutes les sessions, on les filme. Hein. Et donc après, moi, je suis là tout le temps aussi. Je ne fais pas partie des facilitateurs, donc je suis un peu en background, finalement. Je suis pour observer, en fait, ce qui se passe sur le vif. Alors, au niveau des résultats, donc il y a les attentes initiales des enseignants, c'était vraiment un soutien professionnel. Donc, des stratégies pour motiver les élèves, un accès aux ressources, aussi avec une création d'un réseau parce qu'ils se sentent isolés, et aussi il y en a beaucoup qui sentent qu'ils n'ont pas la connaissance des mathématiques pour enseigner le Common Core. Donc il y avait ce besoin là d'un acquis mathématique. En effectif, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur les investigations, ils découvrent de nouveaux challenges mathématiques qu'ils n'avaient pas forcément vus auparavant, ils développent des habitudes mathématiques qui n'avaient pas forcément auparavant, comme vous trouvez les cas initial cases 1, 2, 3 pour établir une récursion par exemple. Et donc ils se rendent vraiment compte de ce que ça veut dire make sense of problems and persevere. C'est l'idée de persevering solving them qui devient très importante à ce niveau-là pour eux parce qu'ils l'intègrent eux-mêmes pour eux. Et ensuite ils arrivent à aider les élèves à l'intégrer également, à créer cette persévérance. Souvent on a la plainte que les élèves, ils abandonnent. Mmh. Maintenant, ils arrivent à plus faciliter à ne pas abandonner, justement. Dans les classes, donc, à travers les entretiens que j'ai eus avec mon groupe d'habitués, là, self-represented, en fait. Donc, c'est eux qui me disent ça. Donc, je ne suis pas encore allée dans les classes. Ça, c'est pour l'année prochaine. Et donc, apparemment plus de résolution de problèmes, des discussions plus riches entre les élèves, et aussi plus de travail de groupe, donc du travail d'équipe. Ils se rendent compte que c'est important la collaboration. Et quels que soient les niveaux, il y a des élèves qui apportent certaines choses, il y en a d'autres qui apportent d'autres choses. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin justement de créer soit des niveaux similaires, parce que certains élèves travaillent plus que d'autres, par exemple. Matériel humain, les ressources matérielles humaines, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus accès à ça maintenant, ils apprécient ça énormément, les enseignants qui participent. Et j'ai aussi interviewé les enseignants du supérieur qui ont participé. Eux, par contre, ils trouvent qu'ils ont moins évolué au niveau de leur démarche d'investigation. Mais par contre, ils comprennent mieux ce qui se passe. Hein, c'est des enseignants de mathématiques, c'est pas des didacticiens dont je parle ici. Ils comprennent mieux ce qui se passe dans les écoles. Et donc, il y a une meilleure perception de l'étudiant qui arrive à la fac. Et avec quoi ils arrivent. Quelles ont été les expériences qu'ils ont pu avoir. Et donc, on appelle ça le vertical alignment, en fait. Puisqu'on a des primaires, secondaires et supérieurs, on arrive à avoir ces échanges, le vertical alignment, qu'il n'y a pas forcément dans des professional development, d'habitude. J'ai un truc là qui est apparu. Quelle sorte. Ouais. Ah ben non, c'est parce que la connexion... au niveau des rôles des membres du groupe, donc j'avais posé la question, c'est vrai qu'il y a des approches et des stratégies différentes selon les membres. Ils réalisent l'importance des problèmes non routiniers, et nous aussi on réalise l'importance des problèmes non routiniers, parce qu'il y avait pas, s'il n'y avait pas des problèmes non routiniers, il n'y aurait pas le challenge, donc on n'aurait pas les mêmes interactions. Les acteurs de la profession, donc comme j'ai dit, une meilleure appréciation des rôles qu'on joue tous sur le spectrum et différents niveaux de pensée mathématique. Ça, c'est un de mes collègues qui m'a dit ça, qu'effectivement ils se rendaient compte qu'il y avait différents niveaux et qu'ils étaient tous aussi valides finalement, et que quand ces étudiants arrivent maintenant à la fac, ils arrivent à apprécier les différents niveaux que les étudiants apportent dans les cours. Et ensuite il y a maintenant ce développement des habitudes, hein. Après quelques activités, je me suis rendu compte qu'on allait toujours chercher une manière de généraliser. Et si mes étudiants dans 7th grade, c'est la 5e, pouvaient s'en rendre compte, ce serait vraiment formidable. Donc après avoir été exposé, il y a cette habitude qui démarre. Ce que disent les enseignants encore, bon, je donne plus de temps à mes élèves maintenant. Je me rends compte que c'est important de donner du temps à mes élèves. Je cherche plus de choses interactives en ligne. Donc là, on approche les ressources digitales. Déjà, ils ont ce besoin maintenant d'aller chercher ailleurs que ce qu'ils ont eux-mêmes des ressources qu'ils utilisaient auparavant. C'est vraiment très différent de ce qu'on offre d'habitude au niveau du professional development. D'habitude, on nous donne une activité qu'on peut utiliser avec les élèves. On n'a pas le temps à passer avec l'activité. Nous, par contre, on ne donne pas une activité qui peut forcément utiliser avec les élèves. Ils ont besoin de la modifier, cette activité, parce qu'on a des niveaux différents. On ne peut pas donner une activité. Tout le monde ne pourra pas l'utiliser, en fait. Donc, c'est à eux de savoir où est-ce que cette activité intervient dans leurs activités avec leurs élèves. Et donc, je fais plus de problem solving avec mes étudiants, et donc il y a des niveaux de réflexion plus élevés de leur part. Donc ici, quelqu'un qui dit, de toute façon, je n'utiliserai pas ces activités-là, mais je peux les modifier pour mes classes. Je ne les utiliserai pas directement. Et en particulier celle-ci dit, je m'intéresse à l'histoire des mathématiques maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas quelque chose auquel ils avaient accès, forcément. Et ça me permet de motiver mes étudiants. Donc il y a un accès à l'histoire des mathématiques. Ensuite, bon, je ne sais pas si je vais passer, parce qu'il y a aussi, j'ai aussi tout un truc sur comment choisir un bon problème, etc. Je pense qu'il va falloir que j'abrège. Hein.
Oui.
D'accord. Donc des directions futures, en fait, on est en train de se développer. Donc dans tout l'État, il y a des groupes qui se forment un peu partout, en Caroline du Nord, maintenant. Et donc on sert de consultant. J'ai déjà parlé de plusieurs des directives futures qu'on allait faire. Et donc dans les établissements, en fait, moi ce que je me propose maintenant, c'est de demander à ces enseignants de m'inviter, en fait. Et comme on a créé une relation de confiance, c'est vrai que le groupe est soudé maintenant, Il y en a déjà qui m'ont dit oui, je vais faire quelque chose dans ma classe, il faut venir la filmer et comme ça on pourra en discuter après. Donc ça c'est la prochaine étape finalement qui sera l'orchestration en fait dans la classe. Donc il y aura soit le côté design et le côté design news en fait. Et donc s'il y a d'autres suivis à suggérer, je suis contente de les entendre aussi. Voilà. J'ai des références. Voilà. Donc le Philippine Pancakes.